Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, DAB+ pour toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Voraz pour l'économie en direct avec Francky à ses côtés. Bonjour Francky. Osons une société plus égalitaire et inclusive. Aujourd'hui, mardi 5 novembre, l'économie en direct est heureuse de diffuser ce matin la retransmission de la 10e étape du mois de l'égalité des chances qui s'est tenue jeudi dernier 24 octobre au sein de la communauté d'aglo de Cergy-Pontoise. Un événement inédit et unique en Val d'Oise, couvert dans son intégralité par IDFM Radio en plateau mobile et pour lequel je remercie chaleureusement Mariam Baraka, Keltoum Rojdi, Riyad Bouafs, Hakim Kamouche et l'ensemble des partenaires grâce auxquels cet enjeu fondamental de l'égalité des chances a pu avoir lieu. Très bonne écoute.
Je vais accueillir ce matin, donc, pour l'ouverture de ce bel événement, Madame Keltoum Rojdi, conseillère communautaire en charge des solidarités et de l'emploi, présidente de l'association Avec Mission Locale et adjointe au maire de Cergy en charge de la petite enfance, du handicap et de l'inclusion. Merci Keltoum d'être là parmi nous.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue à vous au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Notre thème aujourd'hui choisi, osons une société égalitaire et inclusive. C'est un beau thème qui nous rassemble toutes et tous. Monsieur le directeur de la DETS, cher Riyad Bouafs, monsieur Hakim Kamouche qui nous accompagne au niveau de la DETS, monsieur le directeur départemental de France Travail, madame Baraka, madame Marie-France Christine, directrice de l'association Avec, mesdames, messieurs, chers amis, aujourd'hui on est rassemblés à l'occasion de la 10e étape du mois de l'égalité des chances dans le Val d'Oise, ici à Cergy-Pontoise au sein de la communauté d'agglomération. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, au nom de Jean-Paul Jandon, président de la communauté d'agglo, de toute mon équipe de la direction des solidarités, vous avez Carla et Perrine respectivement responsables de la direction des solidarités et directrice des solidarités, on vous souhaite la bienvenue ici au sein de l'agglo et quand vous voulez, n'hésitez pas à nous solliciter, cette salle est la vôtre aussi. On est donc réunis aujourd'hui pour aborder ensemble un enjeu fondamental qui est celui de l'égalité des chances. Un sujet qui nous unit toutes et tous. Et c'est vrai que depuis que le dispositif est lancé et piloté par Hakim, c'est vraiment une valeur qui nous rassemble. Dans un monde en constante évolution, il est impératif, il est nécessaire de construire une société qui valorise la diversité, qui valorise l'inclusion. Oser une société égalitaire, c'est reconnaître avant tout que chaque individu, peu importe son origine, peu importe son genre, peu importe ses capacités ou son handicap, mérite les mêmes opportunités. Nous devons agir, agir ensemble pour que chaque talent puisse s'épanouir, pour que chaque talent puisse contribuer à notre collectif, quelle que soit sa situation. Alors, je suis honorée que l'événement se déroule ici à l'Aglo, à double titre. Déjà en tant qu'élu communautaire, en tant que présidente de l'association Avec, et on a travaillé avec Mariam et Fatima Goulam qui pilote la cité de l'emploi, mais parce que je suis élue en charge du handicap, aussi bien à la ville qu'à l'agglo de Cergy-Pontoise. Je suis aussi référente au niveau des missions locales de l'Île-de-France, mais au niveau national, au niveau de la santé. L'inclusion, c'est un sujet qui me parle. Donc je ne pouvais pas, comme pour les autres étapes, faire l'impasse de cette étape sur notre territoire. Donc je suis vraiment honorée que ça se déroule ici, parce que c'est un symbole de notre engagement collectif. Les valeurs que l'on défend aujourd'hui sont en phase avec notre volonté politique, celle des solidarités ici à l'agglomération, avec la ligne de conduite que m'a confiée le président Jean-Paul Jandon. Et je vous prie d'ailleurs d'excuser son absence, il aurait voulu être là mais son agenda ne lui a pas permis. Je remercie chaleureusement une entreprise qui, à mon sens, est exemplaire et qui va nous recevoir cet après-midi, qui est l'entreprise Collins Aerospace, qui va nous ouvrir ses portes. Donc Madame Huertas, la DG, et Monsieur Michael Battincourt, qui est RH, pour montrer donc à peu près une quinzaine de personnes qui vont venir avec nous cet après-midi avec Mariam, l'engagement, qui vont également témoigner et confirmer que quand une entreprise se donne les moyens, quand une entreprise a la volonté, eh bien l'inclusion et l'égalité des chances font partie de son ADN, font partie de son empreinte professionnelle. Je souhaite également remercier Mariam et l'association Maison Solidarité Femmes. Pourquoi remercier Mariam, vous allez me dire? Tout simplement parce que c'est une femme qui symbolise la persévérance, l'engagement en faveur des femmes. Là aussi, c'est un combat qu'elle mène avec ses tripes et on a ça en commun, c'est qu'on est des passionnés, on ne sait pas faire les choses à moitié. Et elle accompagne, elle aide les femmes vulnérables à se reconstruire avec un nouveau volet. Et un volet qui me tient énormément à cœur, puisqu'on en a parlé longtemps ensemble, c'est celui des femmes en situation de handicap victimes de violences. L'ensemble des actions, comme les embellisseuses, et vous les voyez, nos jeunes femmes avec les beaux t-shirts, contribuent et renforcent cette volonté de cohésion sociale et cette volonté de casser les codes et de casser les idées reçues. Donc ensemble, osons rêver d'une société où chacun peut s'élever. Une société où les barrières sont abolies, où les différences sont célébrées, y compris celles qui sont liées au handicap. Le handicap, c'est 80% d'handicap invisible. Ça veut dire que vous avez des gens autour de vous qui sont en situation de handicap, mais vous ne le savez pas, ça ne se voit pas. En investissant dans l'inclusion, on renforce une résilience collective. Le programme de la matinée est un beau programme, dynamique, réfléchi, penser pour répondre au maximum des attentes de chacune et chacun. Je remercie encore une fois tout le monde. Il y a une personne que je n'ai pas encore remerciée, mais ce n'est pas pour rien puisque je l'avais citée à la fin. C'est Jacqueline Voraz qui est au fond. Voilà, vous pouvez applaudir. Donc Jacqueline Voraz, média social, IDFM, qui a mené un micro-trottoir, un radio-trottoir. Vous allez voir, vous allez en savoir plus. Donc merci à toutes et tous, chers amis. Merci à la direction de la communication de l'Aglo, à Sophie Traite, qui nous a aidés. Je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle matinée. Je vous remercie infiniment de votre présence et réfléchissons ensemble et avançons ensemble. Osons, mesdames et messieurs, osons.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
On continue l'ouverture avec monsieur Antonio Alves qui représente donc France Travail. Monsieur, je vous en prie.
Bonjour à tous. Je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui au nom de France Travail, mais surtout au nom du réseau pour l'emploi que je représente aujourd'hui et en présence de nos partenaires précieux que sont la DETS et MSF 95 qui ont organisé cet événement. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour aborder un sujet crucial, celui d'égalité des chances. L'égalité des chances est un principe fondamental qui doit guider nos actions et nos politiques au quotidien. Elle est essentielle pour construire une société plus juste et inclusive où chacun peut réaliser son potentiel indépendamment de son genre, de son origine, de son âge, de son handicap, de son milieu social ou de son lieu de résidence. Dans le domaine de l'emploi que je représente, les stéréotypes et les discriminations persistent encore trop souvent. Des métiers comme ceux du bâtiment, de l'informatique ou de la conduite de bus sont souvent perçus comme masculins. D'autres métiers, comme ceux des professions de sage-femme ou d'infirmière, sont traditionnellement associés aux femmes. Ces représentations limitent les opportunités et les aspirations de nombreuses personnes. Mais les inégalités ne s'arrêtent pas là. Les personnes en situation de handicap, qui rencontrent souvent des obstacles supplémentaires pour accéder à l'emploi. Pensons aussi à nos jeunes, à nos seniors, qui sont parfois écartés en raison de leur âge. Et aussi les origines ethniques et sociales, ainsi que le lieu de résidence, qui peuvent aussi également parfois être facteurs de discrimination. Nous croyons fermement que chaque individu doit avoir la possibilité de choisir sa voie professionnelle en fonction de ses compétences, de ses intérêts et de ses aspirations, et non en fonction de stéréotypes dépassés ou de discrimination. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble de nos partenaires, dont le Réseau pour l'emploi et vous tous ici présents, pour promouvoir l'égalité des chances et lutter contre toutes les formes de discrimination. Nous mettons en place des programmes de formation et de sensibilisation pour encourager la diversité et l'égalité des chances dans tous les secteurs d'activité. Nous soutenons l'ensemble des initiatives qui visent à briser justement ces barrières de genre, d'âge, de handicap, d'origine, de milieu social, pour vous offrir justement plus d'opportunités et nous valorisons avec toutes les compétences et les qualités humaines de chacun pour garantir un environnement de travail inclusif. Et pour cela, le réseau pour l'emploi, qui est en train de se construire avec l'ADETS, est un acteur clé dans le cadre de cette démarche. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun peut s'épanouir et contribuer pleinement à la société. Nous devons continuer de travailler main dans la main pour sensibiliser, éduquer et agir en faveur de l'égalité des chances. Et pour cela, je tenais à remercier tout particulièrement et chaleureusement l'ensemble des services de l'État, donc la préfecture, le conseil départemental, l'ADETS, Cap Emploi, les missions locales, l'ensemble des entreprises ici présentes et tous les partenaires et entreprises engagées. Et puis un remerciement, vous m'en voudrez pas, un peu plus particulier à l'ADETS, à Hakim, qui a organisé l'ensemble des événements créés dans le cadre des mois de l'égalité des chances. Donc merci Hakim, à la comité d'agglomération, bien sûr, de nous recevoir et d'avoir participé aussi à la création de cet événement. Et bien sûr à la maison Solidarité Femmes 95 pour la création de cet événement. Merci pour votre engagement à tous. Ensemble, on peut faire la différence et construire un avenir plus juste et plus égalitaire. Merci à tous.
IDFM Radio, 98 FM.
Je donne la parole maintenant à Monsieur Riyad Bouafs, directeur de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui.
Merci beaucoup. D'abord, quelques mots pour cet événement du mois de l'égalité des chances dans le Val d'Oise. Je discutais avec la collègue du GIP qui me confirme que c'est un événement inédit, particulier, qui n'existe dans ce format que dans le Val d'Oise. Et peut-être qu'il devrait s'aimer au niveau national. Je voudrais dire que le mérite revient grandement à mon collègue et cher Hakim qui a initié cet événement, et c'est la quatrième édition cette année, avec une réussite grandissante d'une année sur l'autre. Je voudrais saluer également notre partenaire fidèle, la RATP, qui nous accompagne dans le cadre de ce mois de l'égalité des chances, dans sa quatrième édition, et pour son engagement auprès des publics du Val d'Oise. La réussite ou l'ADN de ce mois de l'égalité des chances, c'est le rapprochement des acteurs publics et des acteurs privés en faveur de l'inclusion, en faveur de l'égalité des chances pour toutes les générations, pour tous les publics, qu'ils soient demandeurs d'emploi, cher Antonio, bénéficiaires du RSA, des jeunes, des seniors, des publics en situation de handicap, bref, l'ensemble des publics ont besoin de ce maillage et de cette coordination entre les acteurs publics que nous formons collectivement, services de l'État, opérateurs du service public de l'emploi, collectivités locales, collectivités territoriales, mais également les acteurs du privé, indispensables pour l'aval, pour la réussite de ces politiques à travers les recrutements, l'apprentissage, la mise en place des stages et l'ensemble des dynamiques qui sont à la portée des jeunes au sein des entreprises. C'est l'élément clé de la réussite de ce mois de l'égalité des chances qui favorise l'inclusion de l'ensemble de ces publics à travers le rapprochement des acteurs publics et privés. Et puis, quelques mots pour la régionale de l'étape, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons ou nous travaillerons pour une société plus égalitaire en faveur de l'inclusion des femmes. J'ai cité un certain nombre de publics. Il y a évidemment les femmes vulnérables, les femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales, des violences de la précarité, de la pauvreté, mais aussi des femmes en situation de handicap. Et sachez-le, et je l'avais dit à Mme Baraka il y a quelques mois, c'est une politique publique prioritaire pour l'État. Nous devons travailler l'ensemble de ces leviers pour favoriser l'inclusion des femmes en situation de handicap, l'inclusion des femmes vulnérables, et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme vous le savez, au sein de l'État, nous nous mobilisons à travers d'abord la préfète déléguée à l'égalité des chances, mais aussi l'ensemble des services de l'État, à commencer par la DETS, avec une déléguée départementale aux droits des femmes, mais également le financement d'un certain nombre de dispositifs, notamment les chantiers d'insertion au sein de votre association, les embellisseuses, d'avenir. Et donc tout cela concourt à promouvoir une société plus égalitaire. C'est un peu l'objet de la thématique d'aujourd'hui. Et merci par avance pour le travail que vous menez. Et merci encore une fois à l'ensemble des partenaires qui participent pour la réussite de cette journée et pour la réussite de ce mois de l'égalité des chances. Je voudrais passer la parole à Hakim qui va dérouler un petit peu. C'est bien ça? C'est prévu, d'accord, mais c'est Madame Baraquet qui va l'initier. Encore une fois, merci pour votre mobilisation et vous pouvez compter sur celle de l'État pour vous accompagner à travers Hakim Kamouche pour ce sujet-là, mais l'ensemble des équipes de la DEF seront à votre disposition. Merci.
C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ce rite sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Parce que c'est ça la vie. C'est la vie, c'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie, la vie, dum dum. C'est la vie, c'est la vie.
Toutes ces couleurs et ces parfums, ces roses d'amas, ces sons. Jasmin, c'est comme son Liban qui s'efface. On croyait qu'elle voyait trop grand, qu'elle dessinait comme un enfant. Pourtant c'est elle qui voyait loin. C'est ça la vie, et c'est ça l'amour. Que ta tête fleurisse, fleurisse toujours. C'est ça la vie, et c'est ça la mort. Que ta tête fleurisse, fleurisse encore.
Parce que c'est ça la vie, parce que parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Alors, je voudrais faire appel à Jacqueline Voraz, qui va nous présenter donc Radio d'Anguin. On a, je ne sais pas si vous avez repéré, mais on a un professionnel qui est au fond de la salle, puisque l'émission est enregistrée en direct et elle sera retransmise. Et Jacqueline va vous l'expliquer. Donc Jacqueline, elle est présidente de Radio d'Anguin. Elle anime une émission chaque semaine qui s'appelle L'économie en direct. Et cette émission est aujourd'hui enregistrée hors les murs. Et elle a contribué avec moi à l'enregistrement du Radio Trottoir. Jacqueline, je t'en prie, merci de nous honorer de ta présence.
Bonjour à tous, merci, j'ai l'habitude d'être derrière le micro pour interviewer et j'avoue que de passer de l'autre côté, c'est toujours plus émouvant. Alors, pardon ? Oui, mais on est moins nombreux hein, quand même. Alors, quand je présente mon émission, j'ai l'habitude de dire que c'est la plus belle, que IDFM Radio est la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France. Et c'est vrai que j'en suis la présidente depuis décembre 2023. Et en fait, cette radio est un formidable outil qui est à votre disposition pour vous donner plus de visibilité, vous permettre de communiquer sur n'importe quel événement dont vous voulez faire la promotion. Et je remercie vraiment Mariam Baraka de m'avoir invitée. Je suis très émue de m'avoir invitée à cet événement parce que nous nous définissons comme un média social de proximité. Et je trouve que voilà, être là aujourd'hui, c'est complètement répondre à cet ADN de média social de proximité. Voilà, merci infiniment Mariam et je souhaite beaucoup de chance et de succès à MSF qui le mérite amplement. Merci. Merci infiniment.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
J'invite à cette table Sandrine Le Bossé, auteure de deux livres, Le poids de ma première vie et à eux d'avoir honte. Auteure conférencière, experte dans le domaine des violences sociétales envers les femmes, engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, les violences faites aux femmes et pour l'égalité, elle œuvre pour l'égalité des chances. Son parcours personnel en tant que survivante de violences conjugales a profondément marqué son engagement, notamment au sein de l'association Imani, dans laquelle elle est aujourd'hui bénévole. Après avoir traversé un chemin très difficile, Sandrine a trouvé un puissant exutoire à travers l'écriture. Son travail et ses actions sont la preuve qu'il est possible aujourd'hui de transformer la douleur en une force pour défendre des causes essentielles. Sandrine, merci d'être là parmi nous. Experte des violences, alors quand une société sort de son cadre, qu'elle sort de cette dimension d'égalité des chances et de l'inclusion, d'être acceptée telle que l'on est, dans son genre, dans sa pluralité, il y a des conséquences à cela. Merci de pouvoir en témoigner.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Merci Mariam pour cette invitation. Et je suis vraiment ravie de participer à ce très bel événement parce que c'est extrêmement important. Malheureusement, des sujets qui sont toujours d'actualité, il y a encore énormément de travail, même si les choses avancent. Alors, je suis Sandrine Lebossé, je suis auteure conférencière, experte en violence sociétale envers les femmes. Alors, comment je suis arrivée dans ce sujet? Souvent, c'est pas par hasard, il y a un engagement, ça nous touche. Je suis survivante de 21 ans de violence conjugale. Et en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc comme ça, ça va te donner un petit peu des tips. Je me suis laissée enfermer, j'ai arrêté de travailler. Alors ce n'était pas volontaire, bien évidemment. C'était tout ce processus d'emprise, de contrôle coercitif de mon ex-mari, parce que c'était extrêmement compliqué de justifier. Si j'avais un peu de retard pour rentrer du travail, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es arrêté, t'as discuté avec... C'était extrêmement compliqué. Donc je me suis retrouvée isolée. Je ne travaillais plus, j'étais à la maison, enceinte, à savoir que 40% des violences conjugales débutent pendant les grossesses, où justement la femme est d'autant plus vulnérable, où quelque chose se joue véritablement parce qu'on passe de la conjugalité à la parentalité, donc on n'est plus deux, trois, ça devient compliqué. Et j'ai craqué au bout de ma deuxième grossesse, donc ça faisait presque 3 ans que je vivais des violences conjugales, lors d'une visite avec ma gynécologue pour le deuxième trimestre de grossesse. Et là, j'ai parlé justement de tout ce que je vivais, j'ai craqué. Et c'est là que j'ai pu être accompagnée, d'où l'importance de parler, de libérer la parole. Quand moi, j'ai commencé à parler... tout s'est mis un petit peu en branle autour de moi. La chose qui est revenue, c'est l'importance du collectif. Nous avons tous un rôle à jouer dans les discriminations, dans l'égalité des chances. Moi, mon but, ma mission, c'est d'aider les femmes à libérer leur parole. Et c'est ce que je fais justement dans mon deuxième livre qui sortira à eux d'avoir honte, briser le silence des violences conjugales, qui sortira en janvier 2025. Parce que j'ai parlé des violences... Alors, c'est un chapitre parmi 13. Hein. J'ai parlé des violences que j'ai subies dans mon premier livre, Le poids de ma première vie. Et j'ai eu énormément, énormément de retours sur les violences. Et moi, je sais le bien que ça m'a fait d'en parler, même si c'était pas facile. Et j'ai dit, je veux donner une parole, une voix aussi à ces femmes. Donc, mon deuxième livre a des témoignages de survivantes. Et les lignes, on pourra vraiment les faire bouger quand tout le monde prendra sa part, agira. Moi, je fais partie des petits colibris de l'égalité d'Imani, de l'association Imani. On fait tous notre part. Chaque petit acte, petite action compte. Moi, je m'engage, j'interviens, je me mobilise. Et vous ?
Merci.
Merci beaucoup.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nicolas Thébault, recruteur et conseil en carrière depuis plus de 20 ans, après une première partie de carrière dans l'industrie au poste de directeur de filiale d'un groupe devenu ArcelorMittal, il a ensuite créé TB Pro pour accompagner les autres vers l'emploi, en groupe et par les réseaux. Après 25 ans dans le Val d'Oise, il vit et travaille aujourd'hui depuis le sud de la France. Alors quand on a un peu déconstruit la question du genre masculin et féminin et qu'on a veillé à ce que cette société soit inclusive, égalitaire et bienveillante, eh bien quand on a ce cadre posé, finalement, le et la candidate, la balle est dans son camp, je pense, les manettes de pilotage sont entre leurs mains. On est d'accord, Nicolas ? Eh bien, on va en parler.
Quand j'étais jeune, mais si, j'ai été jeune, dans les années 60, c'était. Il y avait moins de diversité qu'aujourd'hui en France. Et quand on allait à la piscine avec l'école primaire, je me souviens qu'un jour, la directrice m'a bloqué dans le pédiluve pendant que mes copains allaient nager. Et elle m'a frotté les genoux avec une brosse à poil dur, estimant que j'étais sale. Alors j'étais simplement bronzé. Et donc j'ai pris conscience à ce moment-là de ma diversité. J'avais la peau plus mate que mes camarades, tout simplement. Et ça, ça m'a suivi aussi dans ma vie professionnelle. Et je vais vous donner une astuce pour contrecarrer ces discriminations éventuelles que vous pourriez subir. J'étais un jour au restaurant, et j'avais une fonction de commercial, et j'avais mon directeur commercial qui était d'origine cubaine, mais qui voulait pas que ça se sache. Alors il avait les cheveux très ras, il les tirait en arrière. Et sans raison, comme ça, d'un coup, devant un client qui n'avait rien demandé, il me dit « Et toi, t'es beau, t'es de quelle île ?» Ben, je lui dis « La même que toi. » Utiliser l'humour pour contrecarrer ce type de discrimination, sachant que un psy m'a dit un jour « Les gens qui vont te discriminer ont sans doute, dans la plupart des cas, été eux-mêmes discriminés. » Donc soyez indulgents avec eux. Parce que s'ils vous font souffrir, c'est que peut-être eux ont souffert aussi. Alors j'ai connu aussi ma jeunesse par rapport à des gens plus âgés. J'ai été nommé dans une filiale en province où la plupart de mes collègues avaient 50 ans et moi j'en avais 25. Et j'ai gagné deux fois moins qu'eux. Donc pour eux, j'étais l'incarnation de la dégradation de leur statut. Pour contrecarrer ce jeunisme, enfin cette discrimination anti-jeune, je me suis intéressé à leur vie. Je leur ai demandé « Mais comment as-tu réussi dans la vie ?» Et le simple fait de demander ça à quelqu'un, vous êtes sûr qu'il va vous déballer tout ce qu'il a sur le cœur, il sera content de parler de lui. Et c'est comme ça que j'ai été admis dans la confrérie des quinquas alors que j'avais une vingtaine d'années. Un jour aussi, j'ai subi une discrimination dans un groupe qui s'appelle ArcelorMittal maintenant, un grand groupe sidérurgique, dans lequel la plupart des dirigeants ont tous fait la même école, X-Mines, c'est-à-dire de très très grandes écoles, et ils n'ont pratiquement pas de diversité. En tout cas, ils n'en avaient pas il y a 30 ou 40 ans quand j'y ai travaillé. Et je me souviens du DRH qui m'a déplié un parchemin en me montrant les grilles de salaire. Et il me dit, voyez, vous êtes là, c'est pas normal, parce que les gens qui ont un grand diplôme, ben ils progressent comme ça. Mais je dis, ils progressent tous avec le temps. La compétence n'a rien à voir là-dedans. Ben il me dit, non, malheureusement, c'est comme ça. Donc, t'es trop payé par rapport à ton diplôme initial. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, licenciez-moi et offrez-moi un MBA, en l'occurrence une formation qui m'a permis d'atteindre un niveau Bac plus 5 que je n'avais pas à l'origine. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé directeur de filiale ici à ONI, dans un groupe concurrent du leur. Donc il y a toujours moyen de surmonter ce type d'obstacle dans votre carrière. Alors je voudrais simplement terminer ce discours sur une phrase d'un dessinateur de presse que j'adore. Il est mort depuis longtemps, mais il s'appelle Reiser. Il a dit « Les femmes qui veulent ressembler à des hommes manquent sérieusement d'ambition. »
IDFM Radio, 98 FM.
Donc là, on va inverser. On va parler engagement des acteurs économiques. Une société égalitaire, c'est aussi une société qui renvoie une croissance inclusive et pas une croissance qui est exclue. Et donc ça nécessite de d'identifier et d'accompagner l'engagement des acteurs économiques, notamment des entreprises. Et donc ça va être l'objet des interventions de Pauline Gann, qui représente le GIP, les entreprises s'engagent. Donc Pauline, je t'invite à venir t'installer. Pervin, qui est délégué général de la CPME du Val d'Oise. Marie-Claire Amonique, qui représente le MEDEF du Val d'Oise. Donc juste quelques éléments de contexte avant qu'on rentre dans le vif du sujet. là, on est sur la 10e étape du mois de l'égalité des chances. Vous savez, le mois de l'égalité des chances, la première édition a été lancée en 2021, juste après les phases de confinement où personne ne se, où tout ce qui se passait en essentiel parce que, raison sanitaire oblige. Et donc, ça a été vraiment le premier événement où les gens pouvaient se parler de vive voix, échanger, se toucher, etc., etc. Et donc, depuis, chaque année, c'est un engouement assez exceptionnel. Sur les trois premières éditions, on a eu au total plus de 10 000 participants, à peu près 400 partenaires publics-privés mobilisés, quelques centaines d'entreprises. Et l'objectif de ce mois d'égalité des chances, c'est de pouvoir aller à la rencontre des publics, des jeunes et des moins jeunes, hein, parce que c'est toutes les générations. On a parlé de seniors, tout à l'heure on a parlé de jeunes. D'aller à la rencontre de ces publics-là, dans les quartiers, dans les... alors moi je les appelle pas quartiers prioritaires de la ville, je les appelle plutôt territoires à fort potentiel, parce que dans ces territoires-là, il y a toujours du fort potentiel, et c'est important déjà de commencer par utiliser les bons mots et de valoriser les populations qui y sont. Et grâce à la mobilisation des partenaires publics-privés, on va donner à voir, élargir les horizons professionnels des jeunes et des moins jeunes, travailler sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, travailler sur la lutte contre les discriminations, enfin toutes les thématiques que l'on retrouve dès lors que l'on parle d'égalité des chances. Et l'égalité des chances, ça renvoie nécessairement à des thématiques plurielles, et donc ça renvoie à la nécessité d'avoir une approche pluridisciplinaire, et donc de mobiliser toutes les expertises utiles, publiques et privées, collectivités, associations, entreprises. Et c'est l'engagement et le maillage de tous ces acteurs, de tous ces partenaires qui fait la réussite des actions que l'on porte. Et le mois de l'égalité des chances, c'est un des leviers, c'est un des piliers de la stratégie départementale pour l'égalité des chances, qui est animée, pilotée par la DETS, et qui s'appuie sur l'engagement et la mobilisation des partenaires publics privés du Val-d'Oise. Et donc je vais commencer par Pauline Gann, qui représente le GIP, le groupement d'intérêt public qui est national, qui est au ministère du Travail, et les entreprises s'engagent. Pauline.
Merci beaucoup et merci à Kim pour cette présentation. Effectivement, comme le directeur de la DETS l'a rappelé, c'est un beau mois de l'égalité des chances, et c'est vraiment une belle alors j'allais dire performance, mais surtout un bel engagement du département du 95. Et effectivement, l'idée de l'essaimer, je pense, sur l'ensemble du territoire national sera très très intéressant. Moi, en préparant cette table ronde, il y a deux choses qui me sont venues. C'est que déjà, le sujet de l'égalité femmes-hommes et plus largement le sujet de la diversité, c'est un préalable à l'engagement. Moi, j'anime une communauté, j'ai la chance de pouvoir me déplacer partout en France, que le 95 n'est pas le plus loin département. Je suis allée à Mende, notamment pour ceux qui connaissent l'Occitanie, la Lozère, c'est pas très très accessible et ça fait partie aussi des territoires où il se passe beaucoup de choses. On parle des quartiers, on parle aussi beaucoup de ruralité qui sont parfois oubliés, les territoires ruraux où effectivement l'inégalité des chances est aussi très présente. La communauté, les entreprises s'engagent, c'est un pari fait d'une coalition inédite qui s'incarne ici, de coalition entre l'État, les entreprises et les réseaux d'acteurs qui travaillent sur l'engagement, avec l'incarnation ici par la DETS, Hakim, le directeur de la DETS, qui était présent, France Travail, qui fait partie de la gouvernance de la communauté des entreprises s'engagent, et également les entreprises qui vont s'engager concrètement. Elles se déclinent au plus proche des territoires sur 101 départements. Si vous avez la géographie française en tête, ça fait les 98 départements territoriaux, enfin nationaux, en hexagone, et les 6 départements d'outre-mer. Mes calculs ne sont pas bons, je viens de m'en rendre compte, mais en tout cas, sur chaque département, vous retrouvez un collectif d'entreprises engagées. Et cette étape et ce qu'on fait là, ça fait partie des événements qui s'organisent partout en France. Le préalable d'une entreprise qui s'engage, c'est bien sûr de parler de diversité, c'est bien sûr d'inclure les publics les plus éloignés de l'emploi, à la fois pour des enjeux d'attractivité, et je pense que mes collègues autour de la table ne vont pas me contredire, parce que une société, une entreprise, c'est l'illustration, c'est une micro-société en fait, c'est l'illustration d'une diversité qui existe en dehors, et plus cette diversité est représentée au sein de l'entreprise, plus elle devient attractive pour tous les publics. C'était très intéressant le témoignage de la jeune fille qui disait « Je veux être ingénieur informatique », mais quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 13% d'hommes, ça m'a plus donner envie de le faire. Et en fait, on se rend compte que c'est là où ces entreprises-là, quand elles décident de s'engager, elles décident aussi de créer toutes les conditions pour que des publics différents, pour que des personnes différentes se retrouvent et se projettent dans l'environnement de travail que l'entreprise propose. Et ça, c'est à la fois l'ambition de la communauté, c'est-à-dire de bien sûr engager les dirigeants d'entreprise, parce que ça commence par un engagement fort d'un dirigeant. L'entreprise qui vous recevra tout à l'heure, je crois que c'est vous, Keltoum, qui en avez parlé, de Collins Aerospace, c'est l'engagement du dirigeant qui a fait que cette entreprise a envie de s'engager. Mais après, c'est aussi toutes les personnes qui représentent cette entreprise qui vont être opérationnellement en lien avec le public. Et en fait, on parle de recrutement, mais on parle surtout de comment on maintient dans l'emploi. Parce qu'une fois qu'on a recruté une personne, qu'elle soit en situation de handicap, qu'elle soit femme, qu'elle soit réfugiée ou une autre situation, ou parfois une intersectionnalité, donc un mélange de tout ça, après, il faut aussi que les équipes puissent comprendre pourquoi est-ce que cette diversité est importante pour elles et pourquoi est-ce que peut-être que les freins du départ vont permettre ensuite une éclosion par la suite. Et ça, c'est tout l'enjeu d'engager le dirigeant, mais aussi d'engager l'ensemble des managers opérationnels, l'ensemble des recruteurs et l'ensemble des collaborateurs dans leur ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que ces publics restent dans l'emploi. Il y a, à mon sens, trois piliers, et c'est ce que les entreprises s'engagent, essayent d'adresser avec l'ensemble des partenaires. Et quand je parle de la communauté, sentez-vous tous concernés, parce que c'est pour le coup, le mot communauté des entreprises s'engagent, c'est vraiment ça, c'est un alliage de partenaires, d'associations, et merci encore à la Maison Solidarité Femmes de tenir cet événement. C'est l'agglomération, c'est les entreprises et tous ceux qui participent à engagement. Ces trois enjeux, c'est l'orientation. Donc comment est-ce qu'on fait pour que des métiers qui sont parfois inconnus, des nouveaux métiers ou des métiers à prépondérance plutôt masculine ou féminine, et merci monsieur de nous avoir rappelé que sage-femme, en fait, même le nom sage-femme pourrait être peut-être transformé en sage-humain, peut-être, je ne sais pas. Donc c'est l'orientation, comment on ouvre, on fait la découverte des métiers, comment on promeut les métiers à la fois techniques dans les filières professionnelles, c'est le lien qui est fait avec les lycées professionnels et la réforme des lycées professionnels, avec comment est-ce que en bout de chaîne dans ces lycées professionnels ça amène à de l'inclusion dans l'emploi, comment est-ce que en termes de formation on a des formations qui accueillent des femmes, des hommes, des personnes avec tout type d'origine sociale et économique, et on peut les accompagner. Je pense à les travaux que font Social Builder, je pense à Connexio et d'autres qui s'engagent sur ces sujets-là. Et donc comment les entreprises peuvent se rapprocher de ces structures-là pour faire en sorte que au final on arrive finalement à faire en sorte que ces formations techniques permettent à ces personnes de trouver un emploi. Et puis il y a l'aspect du recrutement, et là c'est tout le travail que fait France Travail et le réseau pour l'emploi, de préparer tous ces publics à rejoindre un emploi et finalement le garder. Et ça, au sein de la communauté, c'est à la fois par des actions d'engagement collectives et individuel, c'est des visites d'entreprise, vous en avez une cet après-midi, c'est des job dating que vous connaissez toutes et tous, mais du stade vers l'emploi, par exemple, sur des job dating sportifs, c'est des job dating inversés, c'est des ateliers de sensibilisation et de découverte des métiers, et c'est surtout le rôle du mentorat, et peut-être certains connaissent la plateforme Un Jeune, Une Solution, et donc Un Jeune, Un Mentor, et comment, parce que la deuxième chose qui m'a marqué dans ce super radio-trottoir, c'est aussi ça, c'est comment est-ce que, quand on demande à un jeune ou à quelqu'un quel est votre métier de rêve, et que la personne, plutôt que de dire assistant RH, son métier de rêve c'est d'être DRH. Et donc voilà, le but de cette communauté c'est ça, le travail que fait Hakim sur le département et l'ensemble des acteurs, et vous toutes et tous réunis ici, merci encore, parce que c'est vous qui faites vivre cette communauté, c'est vous qui permettez à ce que des publics qui ont parfois l'impression que c'est pas leur chance ou c'est pas leur moment, peuvent croire aussi en ça. Donc encore une fois, un grand merci pour cette invitation, un grand merci à mes collègues d'un jour sur cette table ronde qui vont, je pense, partager ça, et merci à vous tous pour votre engagement.
IDFM Radio 98 FM.
Je vais laisser la parole donc à Pervine, donc déléguée générale de la CPME du Val d'Oise, qui aussi est fortement engagée dans le cadre de la stratégie départementale et qui est aussi signataire de la charte pour l'égalité des chances, comme le MEDEF Val d'Oise. Pervine.
Bon, merci Hakim pour cette invitation, Marianne, chers collègues aussi un jour. Je vais faire très très vite pour pas bousculer l'agenda. Donc, en tant qu'organisation patronale et à la CPME, effectivement, on a à cœur de mettre en avant la parité et de booster les femmes. Au sein du conseil d'administration, par exemple, de la CPME, on a la parité parfaite. Il y a 18 hommes et 18 femmes au sein du conseil d'administration. Là, on peut pas, on peut pas faire mieux. On a aussi au sein de notre organisation le club entreprendre au féminin où on fait la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, madame les embellisseuses, là, je vous attends, dépêchez-vous de créer vos entreprises. Une grande... Je vous félicite par ailleurs. Je ne vais pas tout reprendre. Je vais juste vous donner une anecdote, enfin vous parler d'une expérience que j'ai vécue dernièrement. C'était à l'occasion du forum de l'emploi organisé par l'agglomération de Cergy, en début de mois. C'est juste vraiment pour retracer voilà l'ensemble. Donc je suis à mon stand et je reçois donc tout un tas de publics différents et j'ai des jeunes qui viennent me déposer des CV pour avoir une entreprise pour leur alternance. Donc tout se passe bien et puis un des jeunes repart et revient et me dit « Madame, est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» Je dis « Oui, bien sûr, je t'écoute. » Il me dit « Voilà, mes parents me disent qu'il faut que sur mon CV, j'enlève ma langue maternelle. » Je fais « Quoi ?» Et donc, il partait du postulat que mettre sa langue maternelle, donc indiquer clairement son origine ethnique, pouvait le mener à une discrimination. Alors, j'étais un petit peu interloquée. Donc, forcément, il venait... Alors, je me présente, je lui dis comment je m'appelle, Pervine Whitmer. Donc, il comprend que j'ai une consonance étrangère. Et je lui dis, écoute, c'est simple, je vais te dire quelque chose. Je viens d'un quartier donc à fort potentiel qui s'appelle le Val-Fouré. Donc, pour ceux qui connaissent pas... Je vous invite à faire un petit Google, vous allez voir. Et donc, il comprend que je suis d'origine étrangère, que je viens du Val-Fouré, et je lui dis, j'ai pas fait d'études non plus. Je me suis arrêtée très tôt. Et je lui explique, après, voilà, le cheminement, ce que j'ai fait, et je lui explique ce que c'est qu'une organisation patronale. Et je lui explique mon métier. Il me dit, ah, je lui fais oui. Et j'ai dit, tu sais quoi, si une entreprise te blacklist et fait la moue par rapport à tes origines, cette entreprise ne te mérite pas. Tu sais quoi ? Passe ton chemin et fais autre chose. Et voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, les entreprises, et je pense que ma collègue me rejoindra là-dessus, on est sur cette optique-là. S'il existe encore des entreprises qui ont cette pensée rétrograde, passez votre chemin. Il y en a tellement, tellement d'autres qui n'attendent que vous. Voilà, c'est tout ce que je vais dire.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
À présent, la parole est donnée à Marie-Claire Amonic, responsable des espaces emploi au MEDEF.
Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. J'ai en particulier merci à Hakim en premier parce que je vais vous parler de quelques actions que le MEDEF a pu développer dans le Val d'Oise et c'est quand même beaucoup avec ce partenariat qui a été très développé et très soutenu par vos services tout au long de ces dernières années. Je reprends le témoignage de votre témoignage que vous avez fait en tant que professionnel auprès du jeune. Nous avons mis en place depuis l'année dernière avec le conseil départemental justement des témoignages de professionnels qui viennent dans les collèges pour des classes de 4e, 3e pour parler du parcours. Parce qu'un parcours, c'est pas un parcours rectiligne. Et donc, ils parlent, eux, de leur parcours, dont ils sont fiers. Et ils expriment aussi bien les opportunités qu'ils ont su saisir. Parce que c'est important, justement, de saisir ces opportunités et d'oser les prendre. Et aussi des échecs qu'ils ont rencontrés, voilà, qu'ils ont subis. Et la manière dont ils se sont relevés de ces échecs. Donc je pense que notre travail, c'est des actions de témoignage. Ce sont aussi des actions pour promouvoir certains métiers. Donc nous allons parler des métiers des femmes dans l'industrie pour expliquer avec une professionnelle qui travaille dans l'industrie, eh bien, pourquoi elle est allée là-bas. Pourquoi elle a réussi et pourquoi ça lui plaît et pourquoi travailler ou pas dans un environnement masculin peut avoir un impact. Nous travaillons auprès des jeunes aussi en essayant de leur ouvrir en leur ouvrant les portes des entreprises. Nos entreprises, nous les sollicitons depuis des années pour qu'ils ouvrent leurs portes, pour que les jeunes visitent les structures, comprennent l'organisation d'une entreprise. Je pense à ce monsieur-là que je ne vois plus, mais qui cherche effectivement un stage en entreprise. Depuis maintenant un bon nombre d'années, c'était à l'initiale à destination des jeunes avec la mobilisation du conseil départemental, de la mission locale d'Argenteuil-Beson et d'organismes de formation. Nous avons mis en place une action particulière en tant que MEDEF Val-d'Oise, je pense qu'on est les seuls MEDEF au niveau national à réaliser ça. C'est une action de remobilisation à l'emploi en parlant de ce qu'est l'organisation de l'entreprise et des codes comportementaux attendus. Et dans les codes comportementaux attendus, effectivement, il y a la prise d'initiative, il y a l'écoute, bon, il y a le travail en équipe, classiquement. Et nous essayons, avec ces actions depuis des années, auprès des jeunes à l'initiale et maintenant auprès des bénéficiaires du RSA, d'accompagner ces personnes pour une reprise d'emploi en mettant de nouveau le pied dans l'entreprise. Voilà. Et nos entreprises adhérentes sont très partie prenante de toutes nos actions permettre l'accès plus facilement des personnes fragiles pour une reprise d'emploi dans les entreprises. Je sûrement oublié plein de choses. Je suis un petit peu émue, effectivement, de parler de cela. J'avais pas eu le temps de beaucoup préparer non plus.
Oui, je sais.
Voilà.
Merci.
À vos dispositions, en tout cas, pour en parler.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Le micro est tendu à présent à Magali Jobert, déléguée générale de l'AFMAE, directrice CFA des métiers de l'aérien.
Donc moi, effectivement, je suis rentrée dans ce métier à 16 ans. Donc très tôt, je me suis toujours demandé comment des tonnes comme ça de métal pouvaient voler, et je me suis dit tiens, ça m'intéresserait de savoir un peu comment ça fonctionne. J'avais quand même un papa qui était aussi mécanicien aéronautique, donc ça aide un petit peu. Et donc à 16 ans en fait, j'ai vu dans le journal l'école technique d'Air France qui recrutait au niveau national, et moi j'habitais à l'île de la Réunion. Alors déjà, j'étais sur une île, j'étais une femme, ça commençait bien. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Massy-Palaiseau, puisque l'école était à Massy-Palaiseau, toute seule à 16 ans. Je connaissais personne, j'avais pas de famille. Et je suis rentrée dans une école et j'ai eu la surprise de voir que dans ma promotion, on était 42 et j'étais la seule fille. Voilà, ça a commencé comme ça à 16 ans, donc ça démarre bien. Hein. 3 ans d'études pour avoir l'équivalence d'un bac pro aéronautique aujourd'hui. Et puis j'ai intégré les hangars d'Air France Industrie à Orly. Et alors là, ça a été encore une autre surprise parce que c'était près de 2000 à peu près mécanos, il n'y avait pas de femmes. Donc je suis arrivée à 19 ans, voilà, et ça a pas été super bien pris. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit, alors des gens qui étaient proches de la retraite à l'époque, et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens piquer la place d'un garçon, t'as pas honte? Voilà, ça, c'était sympa. Et puis j'avais les plus jeunes qui avaient 20 ans, qui étaient persuadés que j'étais rentrée dans un milieu d'hommes pour me faire un maximum de mecs. Donc vraiment une tendance absolument sexuelle, donc je comprenais pas non plus. Et donc c'est un peu compliqué de se dire, ben moi le métier m'intéresse, c'est super intéressant, j'ai appris tout ce qu'on peut apprendre sur des technologies aéronautiques, et puis on vient me parler de ça. Enfin, c'était un peu complètement lunaire. Et j'ai des chefs d'équipe qui ont refusé de m'intégrer dans leurs équipes parce que j'étais une fille et que ça allait mettre le bordel. Et puis j'ai eu un contremaître bienveillant qui a forcé un manager à me prendre dans son équipe en disant, bah tu l'intègres, elle est dans ton équipe. Donc il m'a pris un truc à Dieu, m'a dit, soit tu fous la merde, ça va mal se passer, soit ça se passe bien, tu te tais et puis ça se passera bien comme ça. Et finalement, au bout d'un an, il est venu s'excuser parce que ça s'est tellement bien passé que je suis rapidement devenue meilleure que certains garçons, que j'avais l'esprit d'équipe, que j'avais l'envie, que c'était le métier que j'avais choisi, c'était mon choix. Et en fait, il m'a dit, bah, j'ai été con de te dire ça, parce qu'en fait, bah, ça se passe super bien, et l'équipe, en fait, on a travaillé à d'une complémentarité parce qu'il faut savoir qu'un binôme féminin-masculin, finalement, bah, c'était le top parce que sur un avion, les pannes sont très compliquées et la réflexion, elle est différente quand on est une fille de quand on est un garçon. Et du coup, on avait une belle complémentarité au travail. Donc ça, c'était très intéressant.
Alors effectivement, disons quel parcours. Il a fallu beaucoup de courage pour trouver votre place, mais je pense que c'est pas spécifiquement lié au métier de l'aérien. Il a fallu beaucoup de courage pour en arriver là. Aujourd'hui, vous avez exercé combien de temps ce métier et finalement quelle est la satisfaction que vous en tirez, mis à part effectivement d'avoir accédé à votre métier idéal?
Alors, en fait, du courage ou un peu de naïveté, hein, parce que j'avais pas conscience que c'était genré. Je vois bien le témoignage de la jeune fille qu'on a eue. Moi, j'avais pas conscience que c'était genré. C'était juste un métier génial. Et donc, je suis restée. Aujourd'hui, ça fait 30 ans en fait que je travaille dans le parti industriel aéronautique. Et j'ai évolué parce que j'ai aussi repris mes études. Et ça, c'est important. Et dans des grandes entreprises, on nous permet aussi de reprendre les études. Donc après, j'ai refait un BTS en FONGECIF. Et puis après, 8 ans plus tard, j'ai refait en apprentissage une école d'ingénieur, un master 2 en maintenance, porté par l'entreprise aussi. Et c'est comme ça que j'ai accédé. Je suis toujours restée en production, j'ai toujours adoré être en prod, je suis devenue manager des équipes techniques, je suis devenue manager d'une unité de production, je suis devenue présidente d'une joint venture qui fait de la maintenance à l'aéroport d'Orly, qui fait toute la maintenance de Transavia, d'Air Caribe, French Bee. Et puis là, depuis 3 ans maintenant, je suis directrice d'un centre de formation. Alors tout à l'heure, on a parlé des lycées, je pense que c'est dommage, on oublie aussi les CFA. Et les CFA sont très importants, et encore plus dans le milieu industriel, et ce CFA, il est dans le 95. Il s'appelle l'AFMAE, donc c'est l'Association pour la formation des métiers de l'aérien. C'est un CFA qui forme de l'apprentissage, qui forme, alors en plus on est le premier à être labellisé féminisation, parce que je me bats énormément pour féminiser les métiers, hein, vous vous en doutez. Et on forme aussi, alors on travaille beaucoup avec France Travail, parce qu'on a aussi l'ambition de vouloir offrir du travail aux demandeurs d'emploi, handicap, femmes, genre, sexualité, ethnie, enfin on s'en fiche en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens compétents pour travailler dans le métier industriel. Et on a 2 filières, la partie technique, donc devenez mécanicien aéronautique dans la construction, dans la maintenance, mais aussi agent d'escale, et on forme aussi les hôtesses et les stewards. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, effectivement, les métiers de mécanicien, mécanicienne, technicien, technicienne aéronautique, ils sont méconnus, on les connaît pas. Je trouve dommage qu'on connaisse pas notre centre de formation dans le Val d'Oise alors qu'il est important. On est à Bonneuil en France, à côté du Bourget. On a 1 millier d'apprenants. qu'on accueille aujourd'hui. On continue. On travaille avec 46 entreprises partenaires, Safran, Collins, que vous allez voir, Air France Industrie, Corsair, Transavia, Dassault Falcon Service. Et toutes, aujourd'hui, sont sur des demandes des offres d'emploi. Les métiers sont en tension à l'industriel. Voilà, donc on a vraiment, il y a des opportunités. Rentrer dans le secteur de l'aérien aujourd'hui, c'est possible. Il n'y a pas de blocage. Il faut juste oser franchir la porte, oser avoir envie. Voilà, je vous invite juste. On a un Instagram, on a des portes ouvertes. Les entreprises sont là, et nous, en plus, on travaille un peu à l'inverse d'un CFA, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de contacts avec tous les DRH, et c'est eux qui me disent Magali, il m'en faut 150, il m'en faut 3, il m'en faut 20, et moi, je source les candidats. Et une fois qu'ils rentrent chez nous, on les met en relation avec les entreprises. Donc ça, c'est, ça peut peut-être ouvrir des portes à voilà. Certains qui n'imaginaient pas que c'était pour eux.
Exactement. Alors Magali, vous êtes... Elle mérite, ouais, franchement. Vous êtes une ambassadrice incroyable de votre secteur d'activité. Quel parcours. J'ai pas envie de parler de combat, j'ai juste envie de parler de passion et d'engagement. Parce qu'en fait, c'est ce que vous avez renvoyé. Donc finalement, on se bat pas, juste on s'engage, on est passionné et on avance. Vous avez avancé en marchant et vous avez finalement bouleversé tous les codes de ce secteur d'activité. Et vous êtes là aujourd'hui comme une ambassadrice absolument extraordinaire et inspirante. Donc merci d'avoir partagé cette matinée avec nous.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Je vais donner la parole à Emmanuel, assistant social. Alors Emmanuel, vous avez un métier aujourd'hui qui accompagne du public. C'est, je crois, une reconversion professionnelle. Vous allez pouvoir nous en dire un mot. Pourquoi ce métier-là ? Comment vous avez fait pour y accéder ? Par quel parcours académique vous êtes passé ? Potentiellement, quels sont les freins que vous avez pu rencontrer ? Et aujourd'hui, quelles aspirations, quels souhaits vous avez pour l'avenir en ce qui concerne ces métiers du social qui sont très en tension ?
Bonjour. Donc, je suis assistant social, je suis également psychopraticien. Donc, je suis thérapeute, mais je n'ai pas le diplôme de le Master 2 de psychologue clinicien. Je suis intervenant, donc je fais des conférences sur les inégalités hommes-femmes, les violences faites aux femmes, l'emprise, le cycle des violences. Et je fais des fois aussi des cours dans l'école du social dans laquelle j'ai fait ma formation. Et je suis président d'une association destinée aux femmes qui était pour tout public. Donc elle s'appelle Féminin Pluriel et elle est située dans le Val-d'Oise, à Argenteuil. Et ne se sont présentées à moi que des femmes victimes de violences. Donc ça montre l'ampleur du désastre, du problème. Pourquoi ce métier ? Bah déjà grâce à un homme qui travaillait à Cap Emploi, donc qui est le pôle emploi pour les personnes en situation de handicap, à qui j'ai émis le souhait de travailler dans le social et qui m'a trouvé une formation dans une école, et c'était à la fois une licence de psychologie clinique et le diplôme d'état d'assistant de service social. Donc je dois ça à cet homme. Sinon pourquoi ? En fait, j'ai été à un moment consultant dans le domaine des jeux vidéo, des bandes dessinées, des mangas, des films d'animation. Donc on va dire c'est un boulot de rêve. Mais j'ai fait plusieurs burn-out, épuisement professionnel par manque de sens. Je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? C'est complètement vain en fait. Voilà. J'ai été enquêteur pour un institut de sondage, donc des milliers de personnes m'ont ouvert leurs portes et souvent me racontaient leur vie. Donc ça, j'ai beaucoup appris sur les expériences de vie et sur l'écoute. Et j'ai été enquêteur en sciences sociales et ingénieur d'études en sciences sociales, et bah ça m'a appris une rigueur en fait dans l'écoute et dans le travail. Et en fait, pourquoi les femmes ? Donc j'ai remarqué très vite les injustices, donc pour ce qui est des violences, les inégalités. Donc mon mémoire traitait sur l'insertion par le travail des femmes séropositives d'Afrique subsaharienne. Et il traitait des inégalités, de la migration, du travail, alors que soit l'accès au travail, les femmes qui s'arrêtent de travailler mais pas les hommes quand il y a un enfant, la rémunération, le harcèlement, la répartition du travail domestique et les violences. Voilà. Et j'ai vraiment constaté vraiment toute ma vie ces injustices. Donc j'ai eu envie de faire quelque chose. Je souffre d'un handicap. Donc comme ça a été dit, 80% des handicaps sont invisibles. Donc je souffre d'une semi-surdité bilatérale et d'acouphènes extrêmement aigus et extrêmement forts. Et je n'ai pas toujours eu des appareils auditifs. Et je pense que ça m'a appris à tendre l'oreille, à écouter, avec beaucoup de précautions. Et sinon, j'ai été victime de violences conjugales plus de 20 ans. J'ai élevé mes deux enfants seuls après ma séparation. J'ai été victime d'abus sexuels, donc ces problématiques m'ont aidé à avoir ce militantisme et également à faire preve d'empathie et de compréhension face à ces problématiques. Mes freins contrariétés pour la formation, c'était le handicap. En fait, j'étais le premier à arriver dans mon école en étant en situation de handicap et ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire pour les aménagements d'examen, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, comment rémunérer ma formation. Donc, j'ai dû un peu me débrouiller. Et dans les entreprises également, je trouve que le handicap n'est pas assez pris en compte parce qu'il y a énormément de préjugés de la part des recruteurs et il suffit qu'un intervenant vienne les voir et leur explique, mais regardez, il peut y avoir des aménagements, regardez, ça peut bien se passer, les freins sont souvent levés. Inconvénient de mon travail, le salaire, on va pas dans le social pour l'argent. Mes satisfactions, je fais un métier de sens. Ça, je sais pourquoi je me lève le matin. Il y a une fierté bien placée, j'espère, pas égotique. Quand une femme me dit, tiens, vous m'avez appris à faire telle démarche, je l'ai fait toute seule, ou que c'est une femme sous emprise qui dit, j'ai osé tenir tête, ou une femme qui dit, est-ce que vous pouvez m'accompagner au commissariat, finalement, j'ai porté plainte. Toutes ces choses-là. Ce qui me plaît, c'est le travail pluridisciplinaire. J'ai travaillé dans un appartement de coordination thérapeutique, donc qui est pour des personnes qui souffrent de maladies graves, de pathologies graves, et qui sont hébergées. Et on se réunissait deux fois par semaine. Il y avait des travailleurs sociaux, des psychologues, des infirmiers, des médecins. Et je trouve absolument passionnant comme ça de tous nous réunir pour le bien des personnes, des patients. Donc dans les insatisfactions, il y a une injustice par rapport au genre au sein même du social. C'est-à-dire que plus de 80% des postes du social en général sont occupés par des femmes et seulement 60% des postes de chef de service sont occupés par des femmes. Et dès que j'ai commencé ma formation, donc j'ai effectué ma reconversion entre 2016 et 2019, les formateurs et les professionnels m'ont dit, je l'ai entendu plus de 10 fois, les hommes trouvent un travail plus facilement, ils obtiennent plus facilement et rapidement des responsabilités. C'est-à-dire qu'un homme qui arrive en tant qu'assistant social dans une structure, même si des femmes ont plus d'expérience et de qualifications, c'est souvent à lui qu'on va proposer d'être chef de service. Et je pourrais me réjouir, mais non. Donc je voulais remercier les femmes de ne pas avoir autant de préjugés que les hommes. Et je finirai là-dessus.
Merci infiniment. Merci. Merci Emmanuel.
Promets pas la lune, sans lever la tête au ciel. Moi je déverse ma plume que des cris de peine. Je ris mon vécu, les souvenirs reviennent. Pardonne mon allure si elle paraît superficielle. Le passé m'a eu et le futur m'aura peut-être. Je me suis pris des murs et des injures dans la tête. Je n'ai plus de fumée, j'ai trop enfumé mes rêves. Je n'ai plus de haine, toujours cette musique dans la tête. Et promets pas la lune, sauver la tête au ciel. Moi je déverse ma plume, des écrits de peine. Je ris mon vécu, les souvenirs reviennent. Pardonne mon allure si elle paraît superficielle. On en veut toujours plus, on sait guérir de perdre. Me changer, j'ai pas pu, je ferai rien pour vouloir te plaire. Et malgré les déluges, ma place. Partons à l'aventure, un voyage au fond de nous-mêmes. Mais pardonner c'est rude comme le plus froid des hivers. L'argent ne rend pas riche mais ne pas en avoir nous perd. Allons enfants de la rue, le jour de gloire est loin derrière. Parlons-nous d'amour sans qu'il y ait un brin de haine. Et promets pas la lune, sans lever la tête au ciel. Moi je déverse ma plume, des écrits, écrits de peine. Je ris mon
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Alors on va donner la parole à Mélodie qui est ébéniste. Vous avez vu qu'elle porte le t-shirt des embellisseuses d'avenir parce qu'elle a intégré l'équipe depuis lundi. Alors Mélodie, on va l'accompagner dans son témoignage.
Mélodie, je vous laisse vous présenter et puis nous parler en fait de votre métier, de ce qui vous a animé dans le choix de ce métier, le pourquoi. Voilà, pour cette première question.
Oui, donc bonjour, c'est Mélodie. Depuis petite, c'est vrai que j'étais très attirée par tout ce qui est bricolage, parce que faisait mon grand-père qui était menuisier, donc j'aimais aller le voir dans son atelier. Et bon, j'avais même pensé au métier de mécanicienne, adolescente, et mes parents m'ont conseillé de m'orienter vers un parcours scolaire un peu plus général. Du coup, j'étais jusqu'au bac général, bac STT, donc dans le tertiaire. Donc on faisait un peu de compta, d'ordinateur, bureautique, etc. Et ensuite je me suis tourné vers un BTS communication, sachant toujours pas vraiment ce que je voulais faire, donc c'était un peu la suite logique du bac. Et j'ai arrêté au bout d'un mois, je me suis donné un temps de réflexion à savoir ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai repensé au métier de mon grand-père, au métier manuel et particulièrement du coup le métier dans le bois, une matière que j'aime, enfin que je trouve noble, vivante. Donc j'ai recherché une école pour passer un CAP ébéniste.
Donc si je comprends bien, votre père a été la figure emblématique, la figure influenceuse.
Mon grand-père.
Voilà, que jusqu'à 18 ans, jusqu'à votre bac, vous avez suivi les conseils de vos parents. Oui. Vous étiez a priori prédestiné à un boulot administratif, donc plutôt derrière un bureau. Mais finalement, vous étiez très doué de vos mains. Vous aviez envie de fabriquer des choses et d'avoir la satisfaction du produit fini, si j'ai bien compris. Voilà. En tout cas, dans le témoignage que vous avez fait quand vous vous êtes présenté à MSF 95. Et donc, ce CFA, vous êtes arrivé dans un CFA, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Pendant 2 ans, En alternance,
oui.
Pour être ébéniste, une future ébéniste. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé.
Du coup, je me suis retrouvé, bon, comme mes grands-parents étaient dans le sud, j'ai cherché une école dans le sud pour avoir du coup, j'avais un pied-à-terre chez eux. Et j'ai trouvé une école qui faisait des reconversions professionnelles. Donc, bon, moi, j'ai pris un cursus classique de 2 ans, sauf qu'on était avec des adultes qui étaient en reconversion, qui, eux, restaient une année. Donc, on était des jeunes de 18, ça allait jusqu'aux personnes de 60 ans.
Un groupe plutôt mixte ?
Oui, ouais, c'était assez mixte. Il y avait des femmes, des hommes d'âge différents. Et du coup, j'ai trouvé mon entreprise. Le directeur, lors de ma visite, m'a expliqué qu'ils avaient déjà embauché des femmes auparavant, mais qui n'avaient pas tenu plus de 2-3 mois. Donc, je suis fier.
C'est encourageant pour un début d'alternance.
Oui. Mais bon, je suis fier d'avoir tenu ces 2 ans-là. En plus, justement, donc c'était un peu mitigé au niveau des... On était une trentaine quand même de salariés, donc la seule fille. Et c'était un peu partagé, il y avait les curieux qui me regardaient un peu d'un air reculé, d'autres un peu plus intéressés, ah il y a une femme, ça va un petit peu changer le... Ouais, il y avait plusieurs discours et je me suis retrouvé avec un ancien qui faisait le métier depuis plus de 40 ans, qui m'a appris pas mal de choses. Et je suis sorti du CAP, enfin j'ai eu mon diplôme avec une plutôt très bonne note.
Vous pouvez donner votre note ?
Oui, j'ai eu un 17 sur 20 à l'atelier.
Bah, bravo quand même.
Merci.
La seule ébéniste en formation dans une entreprise au milieu de 29 professionnels.
Oui, on était... Ouais.
Voilà, et on avait un mentor qui était là, qui vous a pris sous son aile.
Oui, oui.
Pour vous accompagner tout ce chemin.
Exactement.
Et alors, diplôme en poche, vous êtes sorti fier d'être du coup diplômé major de votre promotion ébéniste. Absolument. Et qu'est-ce que vous en avez fait alors après?
Je suis remonté en région parisienne pour chercher un métier. J'ai postulé, j'ai jamais vraiment trouvé de réponse. J'ai eu une petite mission ou deux en menuiserie. Donc mon menuiserie, c'est un peu différent de l'ébénisterie. C'est pas, on travaille pas le bois massif. Et en fait, par nécessité financière, je me suis inscrit en agence d'intérim. J'ai postulé à, enfin, je leur ai dit que j'étais ouvert à tout sorte d'emploi. Je me suis retrouvé à faire de la logistique, enfin de la manutention dans une entreprise de logistique. C'est des personnes avec qui j'ai créé des liens, ils m'ont proposé de travailler avec l'assistante de direction. Et de là, donc, j'ai commencé à effectuer des missions auprès de l'assistance et l'assistante de direction, pardon. Et ils m'ont proposé de passer un BTS en alternance chez eux, de reprendre.
Alors c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que je fais juste un petit retour en arrière. C'est-à-dire que vous êtes monté du sud avec votre diplôme en poche, fier d'être ébéniste de métier. C'était ce que vous vouliez pratiquer.
Oui. Pratiquer
la matière du bois noble que vous aimez tant. Et là vous avez eu toutes les portes fermées. À votre avis pourquoi? C'est-à-dire qu'on vous a, on n'a pas répondu à vos candidatures, à votre
alors, candidature. Alors peut-être
selon vous, quelles sont les femmes?
Peut-être aussi par manque
de. Le fait d'être femme. peu d'expérience, jeune.
Pas assez d'expérience, on demandait souvent.
Donc vous avez coché toutes les cases de non, elle est pas, c'est pas possible pour elle. D'accord. Et du coup, vous vous êtes orienté vers la logistique, donc aussi un métier plutôt genré, où il y a majoritairement des hommes.
J'ai pas trop le choix, on m'a proposé une mission.
Par survie alimentaire.
Et voilà.
Et de là, on vous a quand même orienté en interne à un métier plutôt tertiaire.
Oui.
Puisque vous aviez un bac à la base STT, et donc vous vous êtes retrouvé à faire un BTS en alternance assistante de gestion.
Voilà, oui.
Voilà. Vous voyez le cheminement dans l'entreprise, comment ça passe. Elle arrive en tant qu'ébéniste par cette porte-là, puis elle se retrouve finalement assistante de direction, et puis elle passe un BTS de nouveau dans le tertiaire, parce que finalement, dans son genre, c'est là où elle est le mieux.
Oui.
Pardon. Et du coup, après votre diplôme, vous l'avez obtenu, votre BTS?
Oui, j'ai obtenu. Ensuite, l'entreprise devait m'embaucher, mais les budgets d'entreprise ont fait que ça n'a pas pu être le cas.
Oui.
Du coup, je suis reparti dans le sud. Et parce que je m'étais fait un réseau aussi d'amis là-bas. Et puis là, j'ai enchaîné d'autres emplois, d'autres missions en vente, en administration, en restauration, en hôtellerie.
Vous avez découvert plusieurs secteurs d'activité.
J'avais toujours un peu l'idée du bois dans ma tête, mais disons que j'ai enchaîné ce que je pouvais pour. Puis bon, peut-être que ça s'était un petit peu éteint. Mon rêve s'était un petit peu éteint à un moment. Et pendant le confinement, je suis remonté, et juste à la fin du confinement, je me suis réinscrite dans d'autres agences, et on m'a proposé une mission en menuiserie. Du coup, et là, j'ai intégré une entreprise qui fabriquait des podiums de présentation dans les cosmétiques. Donc, on fabriquait des podiums qui allaient pour des lancements de produits, parfums, cosmétiques, maquillage, qui était très intéressant parce que on travaillait pas le bois massif, mais des matières recomposées. Mais on faisait aussi du plaquage, de la peinture. Et je suis resté 3 ans là-bas, et ensuite j'ai quand même arrêté parce que c'est pas exactement non plus ce que je voulais faire. J'avais besoin aussi d'un temps pour moi, et je vous ai rencontré entre-temps, et du coup je me suis octroyé une petite parenthèse
chez MSF 95 en tant qu'embellisseuse d'avenir.
Voilà, et puis pour découvrir le métier dans le bâtiment de peintre décoratrice, parce que c'est aussi un métier manuel, c'est des métiers qui me parlent de toute manière. Et j'espère en sortir avec un projet professionnel, et puis de toute façon avec des compétences supplémentaires.
En tout cas, merci de nous faire confiance, Mélodie. Moi, je suis ravie de vous avoir parmi les embellisseuses d'avenir, parce que vous êtes riche d'expérience, vous êtes humainement incroyable, et j'espère que MSF 95 et les embellisseuses d'avenir vont vous apporter cette clé qui vous manque pour exercer votre métier idéal.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Et on va finir par Benoît. On a quelques minutes, Benoît, pour que tu puisses nous parler de ton métier de sage-femme, pour être un petit peu dans le timing, parce qu'on me fait des appels de partout. Attention, attention, retard. Donc là, on a compris que tu étais le cinquième homme en 1989, c'est ça? Resitue-moi, à être diplômée sage-femme. Pourquoi ce métier? Quels sont les freins potentiels que tu as rencontrés durant ton parcours académique, et quelles sont les satisfactions que tu as tirées de ton métier que tu exerces encore en tant que libérale?
Donc moi, quand j'ai passé le bac, le métier de sage-femme venait juste de s'ouvrir aux hommes en 1983. Avant, c'était interdit aux garçons de se présenter au concours pour être des écoles de sage-femme. Donc mon bac, je l'avais. Donc ma mère m'a informé de cette ouverture par la grande presse féminine, en fin de compte. Il a fallu que je tienne un an à faire autre chose. Donc je suis allé à la fac, et puis après j'ai passé le concours, je l'ai eu. À commencer, et heureusement que c'était un concours, sinon je serais jamais sage-femme, puisque après le concours, on était reçu quand même par la directrice des écoles, qui m'a tout de suite dit qu'elle était contre l'entrée des garçons dans la profession, et que s'il n'y avait qu'elle, je ne serais pas là. Je lui ai dit, j'espère prétendre le même enseignement que les autres. Elle m'a dit, je n'ai pas le choix. Donc j'ai eu le même enseignement que les autres, avec quand même 0,5 de plus que de la note éliminatoire à chaque examen, histoire que je ne puisse pas saisir et porter recours. Mais c'est pas grave, j'ai continué à sourire. Maintenant, il faut s'inscrire avant, il n'y a plus d'hommes, et il n'y a même plus de femmes, puisqu'il y a 40% de places vacantes dans les écoles de sages-femmes, faute de conditions de travail reconnaissantes et respectueuses. Voilà. Mais faites ce qui voudrait, faites-le. Hein. Parce qu'en fait, c'est une richesse incroyable, en fait. Moi, je mourrais tranquille.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Alors on termine cette matinée. Vous avez vu que les témoignages, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Il y a un vrai fil conducteur sur cette question du genre et de la place des métiers dans notre société, de la représentation et de ce combat, parce que là je peux employer un combat contre les stéréotypes du genre. Exerçons nos métiers comme on le souhaite et puis faisons surtout de nos rêves une réalité et quelque chose de concret. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais finir cette matinée par les embellisseuses d'avenir qui vous ont préparé une toute petite surprise qui dure 3 minutes 50. Voilà, il y a un joli reportage photo qui est une exposition derrière et qui représente le dernier chantier qu'elles ont fait, enfin le premier chantier dans la restauration du patrimoine, mesdames, excusez-moi. Elles ont restauré humblement un petit bout des douves du château archéologique de Louvre, voilà, qui date du XIIIe siècle. Je suis incapable de vous dire quel est le roi de l'époque, mais il y en a une qui l'a bien retenue, qui s'appelle Patricia. Voilà, nous avons fait une livraison le 18 octobre dernier. La DETS et le France Travail et tous les partenaires étaient présents lors de cette mission locale également, lors de cet événement. Je suis fière de vous, mesdames, fière de ce que vous êtes en train de devenir. Eh bien, on va vous préparer la salle et puis, mesdames les slameuses, la scène est à vous. Alors juste pour le texte, elles l'ont coécrit ensemble sur un atelier d'écriture presque thérapeutique où elles ont pensé ce qu'était la société pour elles idéale, inclusive et égalitaire. Et ce slam, parce qu'elles s'improvisent slameuses, va être porté par une musique de Grand Corps Malade. Voilà. Alors je vais quand même les présenter avant qu'on lance la musique. On a Mélodie, on a Coro, on a Fatoumata, dite Fat, on a Cynthia, on a Alena, on a Patricia. Et parce qu'aujourd'hui, c'est l'égalité des chances, donc vous êtes une femme comme toutes les autres, bien que vous soyez encadrante, Madame Christelle Ruscade. Voilà. Donc elles sont là, elles ont co-écrit le texte et elles ont chorégraphié toutes seules. Je peux vous dire qu'hier, quand elles m'ont fait la répétition après 48 heures, j'ai eu la petite larme à l'œil. Donc, eh bien écoutez mesdames, la scène est à vous, chère embellisseuse d'avenir.
Mon chemin a été orné de difficultés et de portes fermées. Plongée dans l'incertitude, je me suis battue jusqu'au bout.
Sans rien abandonner, j'ai décidé de me relever et refuser de me résigner. Avec souhait d'espérer qu'on puisse me prendre comme un être humain dans mon entièreté.
Ne plus être réduite au rôle auquel on veut me cantonner, pouvoir choisir mon métier, mon avenir et porter ma voix.
Envie de croire que je peux tout réinventer, car il n'y a pas de recette facile pour tout effacer.
Saisir ma chance, m'ouvrir aux opportunités et prendre ma place. Je refuse d'attendre que les lendemains se décident à me faire une place.
Même si l'avenir était encore loin, progresser, avancer seront ma devise. Sans honte, sans poids du passé, tout en me regardant, quoi qu'on en dise.
Le moment est venu de choisir mes envies, mes refus, mes éventualités.
Aujourd'hui,
osons
le choix,
le partage,
le vivre ensemble
dans une société
qui nous rassemble.
Merci. Et ben voilà, les larmes encore. Vraiment, ce texte, elles l'ont écrit, elles l'ont pensé. Elles ont, pour certaines, le vocabulaire était pas simple. L'articulation était pas simple. Mais vraiment, je vous dis, mesdames, l'avenir est devant vous. Je vous donnerai toute mon énergie pour que vous puissiez être des femmes debout. Vous pouvez être, c'est pas moi qui suis fière de vous. Vous pouvez vous être tellement fière de vous. Voilà. Donc, on va clôturer cette belle matinée. J'espère qu'elle a été, riche en réflexion, riche en pensée. Ce Val-d'Oise qu'on aime tant, on l'aime comme ça. On l'aime dans sa diversité, dans sa pluralité, dans sa complexité. On est tous ensemble, services de l'État, autorités territoriales, associations, partenaires, ensemble pour penser un avenir meilleur, un avenir ensemble. C'est pas une utopie, c'est une réalité. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé toutes ces émotions avec nous, avec les embellisseuses d'avenir. Merci à vous et continuons à oser penser que nous pouvons vivre ensemble dans une société égalitaire et inclusive.
Merci Mariam pour l'animation de cette matinée. Merci à toutes et tous, notamment les intervenants. Voilà, des témoignages qui sortent vraiment du cœur. Vous avez tous parlé avec votre âme. Et il n'y a pas mieux que la sincérité et de dire les choses de la manière la plus simple qui soit pour toucher son auditoire. Donc je vous remercie infiniment. Moi j'aime pas la politique politicienne, hein. Je suis élue, je suis adjointe, enfin voilà, j'ai plein de casquettes. Mais avant tout, je veux rester moi-même. Et pour vous dire une chose, c'est que vos témoignages, ils m'ont marqué parce qu'ils m'ont parlé. Et pourquoi ils m'ont parlé? Parce que comme vous, comme la lutte des stéréotypes, moi quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu rentrer faire hôtesse de l'air. Bon, déjà je suis un peu petite. Mais bon, ça c'est pas trop grave, ça se résout. Mais mon père m'a dit non en fait, paix à son âme. Il m'a dit non, tu vas servir dans un avion. Je veux autre chose pour toi. T'es l'aîné de la famille, machin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on m'inscrit en fac d'informatique à Paris 8. Micro-informatique appliquée aux sciences humaines. Et bien figurez-vous que j'étais la seule nana parmi 80 garçons, ici à Saint-Denis. Et ça a été compliqué, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on cumule beaucoup de freins. Je viens d'une banlieue, Cergy, bon, j'habite une maison, mais c'est quand même un quartier où je note. Je suis d'origine maghrébine, ça aussi, il faut le dire, hein, c'est un frein. À l'époque, j'étais pas blonde. Hein, je dis ça en rigolant, mais enfin, voilà. Donc on cumule des freins, et donc tout ce que vous avez dit, en réalité, pour qu'on puisse faire changer les choses, pour que la société évolue, il faut qu'on soit de plus en plus nombreuses et nombreux à dire haut et fort ce qu'on a vécu, à témoigner et à être des personnes inspirantes et inspirantes. Et tant qu'on ne le fera pas suffisamment, tant qu'il y en a qui ne vont pas oser aller au bout des choses, oser se dévoiler, oser dire ce qu'ils ont vécu et leurs difficultés, on n'arrivera pas à avancer. Voyez, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est, parce que les parcours que l'on a vécu, nos échecs, nos difficultés, le fait qu'on ait appris à se relever, font que l'on est les personnes qu'on est devant les autres. Et moi, j'en suis un exemple. Alors, c'est rare que je me confie, que je dise ce que j'ai vécu, mais je suis une maman qui, depuis 2009, élève seule ses enfants. Donc, ces difficultés, je les comprends. La difficulté des violences, je sais aussi ce que c'est. Alors, moi, c'était pas de la violence physique, c'était peut-être même pire, parce que c'est de la violence psychologique. Et on vous titille tout doucement. Tout doucement. Alors aujourd'hui, moi je vous dis merci. Merci à toute l'équipe qui a co-organisé cet événement autour de Mariam. En l'occurrence, on avait Fatima qui a fait un énorme travail. On avait Aurélie aussi qui est pas là, qui est la femme de l'ombre. J'ai aussi contribué, la mission locale, Hakim, l'agglomération, vous, mesdames. Mes embellisseuses, voilà. Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer au tout début, et je vois le parcours, je vois l'évolution, je vois que vous gagnez en confiance en vous. Et le fait que vous soyez posée comme ça aujourd'hui, devant cet auditoire, montre que vous êtes vraiment en train d'évoluer, en train d'avancer. Donc, révélons tous nos talents. Osons révéler les talents des autres, soyons empathiques, soyons bienveillants. Le regard que l'on a sur l'autre, il est essentiel. Alors on a parlé tout à l'heure, et je vais m'en arrêter là, parce que il aurait fallu peut-être presque prévoir un après-midi de plus pour pouvoir avoir un échange avec la salle. peut-être, mais on réfléchira à la prochaine fois. Cet après-midi, à 14h, on a rendez-vous avec un certain nombre de personnes chez Collins Aerospace. On les a cités tout à l'heure. Collins, qui est, comme je l'ai dit en préliminaire tout à l'heure, c'est une entreprise qui a signé, parce qu'on a signé, il faut le savoir, avec les services de l'État, donc de la préfecture, avec le parc Saint-Ouen-l'Aumône, avec France Travail et également l'association avec Mission Locale. Nous avons signé une convention de partenariat avec 500 entreprises. Cette convention, elle portait sur quoi ? Sur le fait justement de sensibiliser ces 500 entreprises à recruter différemment. Voilà. Et elles s'y sont engagées avec nous, puisqu'on a tous signé cette charte. Donc, les choses, elles commencent à se faire, elles commencent à bouger progressivement. Et Collins, donc, fait partie des entreprises signataires. Hein. Collins, qui est située au Vert-Galant, nous allons voir cet après-midi, puisqu'ils nous ouvrent leurs portes. Et le DRH, donc, Michael Battincourt, n'est autre que le président d'Envol, qui est une association qui œuvre pour le recrutement des personnes en situation de handicap. Et c'est une asso qui fait vraiment un travail considérable. Alors, il y a le handicap, mais tout peut être un handicap, tout peut être un frein. Quand je parle, là, aujourd'hui, du handicap, c'est pas uniquement le handicap avec la notion MDPH, RQTH. Je parle du handicap qu'on va se mettre nous-mêmes. Ces freins qu'on va se mettre. Et puis que les autres, au lieu, parfois, de nous encourager à les casser, ces barrières, ils vont peut-être, parfois, enfoncer sans s'en rendre compte. Donc, chacun doit penser à casser lui-même ses propres barrières, à les briser pour pouvoir avancer et être bien entouré. Donc moi, je vous dis merci, je suis ravie de cette matinée. Merci Hakim, tu peux venir. Voilà, parce que Hakim, c'est aussi un peu l'homme de l'ombre. Hakim, il arrive à créer, au niveau de la dette, au niveau des services de l'État, cette belle émulation. Il arrive à faire en sorte qu'on travaille ensemble. Voilà. Donc, il pilote, il nous donne des consignes, il nous appelle, il nous encourage. Et ça, c'est important. La bienveillance que l'on a. Mariam, c'est un secret pour personne. On se connaît. On s'apprécie énormément. Je soutiens la femme qu'elle est. Je soutiens les actions qu'elle défend, puisque je les défends aussi pour x, y raisons. Merci à Marie-France Christine qui, malgré un rhume ou une pharyngite ou je ne sais pas ce qu'elle couvre, mais en tout cas c'est pas contagieux, je vous rassure, était là ce matin, qui est directrice de l'association avec la mission locale. Et juste pour info, mission locale, au départ, quand je suis arrivée en tant que présidente, c'était mission locale Cergy-Pontoise. Et je me suis dit, mince, en fait, on a le Vexin qui est à côté. Donc on va pas les laisser au bord de la route, ces jeunes du Vexin. On parle des quartiers politiques de la ville. Ok, c'est pas des QPV, mais c'est quand même des jeunes. C'est quand même des jeunes qu'il faut accompagner, qu'il faut aider. Et la mission locale a changé de logo, elle a changé de nom. Et elle s'appelle Mission Association avec Cergy-Pontoise Vexin. Donc on va, je vous rassure, mesdames, messieurs, on va jusque dans le Vexin. Et Fatima, parce que qui dit mission locale, on pense souvent aux jeunes. Mais la Cité de l'Emploi, peut-être que vous ne connaissez pas le dispositif. Donc là, on va pas déborder parce qu'il faut pouvoir aller manger. Mais Fatima, je veux bien que tu viennes à côté de moi, quand même. Je te donne pas la parole, mais viens quand même, au moins. La Cité de l'Emploi, c'est quoi ? La Cité de l'Emploi, c'est un dispositif qui est financé dans le cadre de la politique de la ville et qui permet d'accompagner vers la formation, l'insertion, l'emploi, en levant les différents freins qui l'empêchent pour un public âgé jusqu'à 60 ans, voire au-delà. Voilà. Donc, on n'intervient pas uniquement pour les jeunes, on intervient pour tout public et on est complémentaire. Aujourd'hui, la Cité de l'Emploi travaille énormément avec Maison Solidarité Femmes 95, l'association avec, mais également l'agglomération, le MEDEF, la CPME, les CFA et l'ensemble des partenaires en lien avec les services de l'État et les différentes associations du territoire. Parce que comme je l'ai dit au début et comme on l'a tous dit, il n'y a qu'ensemble qu'on arrivera à lever ces freins et à avoir une société plus égalitaire et plus inclusive. Merci mesdames, messieurs.
L'économie en direct est terminée. Encore un grand merci à tous les partenaires qui ont participé à cet événement majeur. Le mot d'ordre qu'il faut retenir, continuons à penser que nous pouvons oser. À très vite pour un nouveau numéro de l'économie en direct.